On a une petite table ronde sur effroi et sentiment faire frissonner les ados. Avec une sélection d'auteurs qui œuvrent régulièrement dans ces genres dits pour jeunes, jeunesse, adolescence. Donc voilà. Et on va pouvoir s'interroger un petit peu sur effectivement. Je pense que derrière cette question, il y a la question du public. Et il y a la question de. Est-ce qu'on écrit différemment? Est-ce qu'on s'adapte au public qu'on vise? Ou est-ce que parfois on a des textes qui sont classifiés comme ça? Comment est-ce qu'on provoque l'effroi et les sentiments? Comment est-ce qu'on provoque la peur? De quoi on parle? Jusqu'où on peut aller? Débat sur la littérature jeunesse. Premier qui me répond non, une question sans argumentation. Hein. Parmi les quatre auteurs que nous avons ici présents, ils ont commencé à se présenter, mais comme je suis sûr qu'ils ne vous ont pas parlé de tous leurs titres, je vais faire une petite redite. Donc, à mes côtés, Jeanna Debat. Pardon. Jeanna Debat.
C'est rien, c'est mon éditeur.
Oui, c'est pas Donc, parmi les choses qu'elle a commises, on citera notamment Plagueurs, La vieille anglaise et le continent. Récemment, il y a eu L'héritière, ouvrage de Bitclic française, édition avec USF. On a eu également Eden en sursis, La balade de Trash. On va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir là-bas. Mais,
un éléphant, apparemment.
Un éléphant. Normalement, aucun éléphant n'est maltraité ici, sauf les ragondins. Donc,
mais c'est pas des éléphants,
ça tombe. On va continuer avec les filles, avec Daniel Martinigol. On va parler notamment des abîmes. L'enfant mémoire, Charles X, Sens interdit. Daniel, c'est simple, quasiment tous ses livres sont en destination de la jeunesse. Donc, la grande spécialiste, c'est Daniel. À mes côtés, Ménéas Marfil. La fabuleuse histoire des lunes de Panda, 3 tomes.
Pandore.
Comme
dans Avatar. Voilà. Mais je l'ai écrit avant que le film sorte. Hein, je précise.
En même temps, avant le film, largement avant toi, tu avais la boîte du même nom, donc on avait le droit.
On avait le droit de l'ouvrir.
C'est vrai. Voilà. Et puis, David Moitet, Le passage des ombres, qui a eu le prix Femme actuelle du Polar.
Ouais, c'était pas tout à fait celui-là, mais c'est pas grave.
C'est pas celui-là?
C'était l'homme au papillon qui a eu. C'était
mon
premier.
C'était marqué.
Non. Bon. Non, Le passage des ombres, c'est mon dernier polar, plutôt pour adultes.
Ouais.
Et là, donc, c'est plutôt la série Les Mondes de l'Alliance pour la jeunesse.
Très bien, parfait. Alors, on va parler un petit peu donc de l'écriture pour les adolescents. Peut-être un petit tour de table sur comment est-ce que chacun de nos auteurs appréhende le fait d'écrire pour un public visé. Et qu'est-ce qu'ils y mettent dedans comme prérequis, par exemple. Jeanne.
Dans mon cas, c'est assez facile. J'ai une idée d'histoire et elle est déjà, elle est déjà pour un public. C'est pas que je l'ai pensée. Je vais écrire. En fait, j'écris en adulte autant qu'en jeunesse et j'écris à partir de 8 ans. Hein, j'ai plusieurs. Plusieurs âges, et suivant le type d'histoire qui me vient, eh ben, c'est évident qu'elle va s'insérer plutôt pour les 8 ans, plutôt pour les adolescents ou les young adultes, et, ou plutôt directement pour les adultes. Parfois, il arrive que ces histoires que j'ai pensées pour un ou l'autre niveau, finalement, je trouve que la façon de la raconter, ça sera plus intéressant dans un niveau à côté. C'est ce qui est arrivé avec Plagueurs, qui à la base était une nouvelle, que j'ai d'abord pensée pour une nouvelle adulte. Et puis, j'ai trouvé que les personnages, j'avais envie de les creuser. Et du coup, c'est devenu un roman young adulte. Et puis, en discutant avec mon éditrice de l'époque, elle m'a dit, mais quand même, il y a énormément de fond. Si tu fais ci, ça et ça, ça fera un super roman adulte. Et Plagueur, c'est devenu un roman adulte, alors que sa destination, c'était pas du tout celle-là. De l'autre côté... La balade de Trash dont tu parlais, à la base, c'était dans ma tête complètement une histoire adolescente. C'est pareil pour Eden en sursis, je n'aurais pas raconté cette histoire d'une façon différente jamais. Parce que, en fait, je ne veux me priver de rien. quand j'ai un propos à défendre, parce que c'est mon idée en science-fiction, j'ai toujours un propos dans mes histoires, pas un message, mais une question, un questionnement plutôt, par rapport à certains faits. Alors ça, c'est plutôt ciblé sur la science-fiction, mais je me suis aperçue plus tard, alors je pars dans tous les sens, hein, excusez-moi, je me suis aperçue après que j'avais ça aussi quand je faisais dans du fantastique, mais de façon plus éparpillée. Par exemple, dans L'Héritière, il y a plein de mini-messages, plus un méga au milieu, mais alors qu'en science-fiction, je suis plus, plus centrée sur un propos particulier. Et notamment en jeunesse, où je ne dois pas pouvoir me départir totalement du prof de français que je suis toujours, car je n'ai pas la chance de Daniel d'être à la retraite. Voilà. Mais ça viendra peut-être un jour, encore que. Voilà. Encore que, bon, je suis contente en classe aussi. Mais, mes histoires se racontent de la façon dont elles doivent être racontées. Il n'y a rien que je le retranche. Et surtout, même si je ne montre pas tout, je dis tout ce qui la concerne.
Alors, si je résume, donc, il y a des idées, puis il y a des histoires qui naturellement trouvent leur place, plutôt pour des adultes, le terme est toujours un peu bizarre, mais pour des adultes, et ou plutôt pour des plus jeunes, voire des plus jeunes. Est-ce que c'est en fonction vraiment du message, de ce que tu as envie de dire? Est-ce que c'est en fonction des personnages? On y viendra tout à l'heure, on se posera la question sur est-ce qu'un roman ado, c'est forcément un personnage ado, un héros? Comment ça se fait? Ou est-ce que, tu disais, c'est des discussions avec des éditeurs qui parfois te font réorienter?
C'est l'histoire qui décide de tout, en fait. Les personnages la portent. Quand j'ai envie que... Ah, je ne sais pas trop comment exprimer ça. Quand j'ai envie d'exprimer quelque chose, l'histoire s'incarne directement dans les personnages.
D'accord.
Et il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi, c'est une évidence à partir du moment où j'ai une idée, que ça va être tel personnage qui va la porter. Voilà. Et parfois, le personnage qui porte l'idée principale, c'est pas les marionnettes que j'ai mises sur scène et qui jouent, mais le narrateur. Qui regarde ça et qui raconte l'histoire.
On va poser la même question à Daniel. Alors, Daniel, tu écris pour plein de tranches d'âge, que ce soit des ados ou des plus jeunes.
Ça commence à 9 ans et ça s'arrête à ce qu'on appelle les jeunes adultes, mais moi j'écris plus. Enfin, mon lecteur dans ma tête, mon lecteur cible, c'est 12, 13, 14. C'est ces âges-là, moi. J'écris pour les grands élèves de collège, en fait.
D'accord.
Donc, il s'est trouvé que les livres que j'ai écrits pour les plus jeunes sont ceux que j'ai faits en collaboration avec Alain Grousset. Mm-hmm. Les miens, toutes seules, sont plutôt pour les grands lecteurs de collège. Et moi, je suis un petit peu comme Jeanne. J'ai besoin de mes personnages assez vite parce que c'est le personnage, le héros. Et de toute façon, moi, je mets toujours un garçon, une fille. Autant actant l'un que l'autre dans l'histoire, sont mes personnages qui vont effectivement porter l'histoire, parce qu'ils vont vivre une aventure. Et ces aventures, je les mets dans des situations qui sont au départ des. Je dis souvent, mes livres naissent de colère, de joie, de peur devant le monde autour de moi. Quand je dis que j'écris de la science-fiction, beaucoup de gens pensent que je me projette vraiment dans le futur. En fait, j'utilise le futur pour écrire des choses qui dénoncent le présent, en fait. Hein, oui, les personnages. Je suis comme Jeanne aussi. Il n'y a pas vraiment un message. Disons que j'ai commencé à lire de la science-fiction très jeune. J'ai commencé à lire, j'avais 11 ans, des romans de science-fiction qui étaient des romans d'aventure qui se passaient vraiment du space opéra. Et il se trouve qu'à cette époque-là, la science-fiction était très souvent une littérature qui mettait en scène des gens qui en voulaient à mort à la Terre. Vous aviez des extraterrestres qui déboulaient à grands coups de vaisseaux spatiaux et de lasers pour venir attaquer la Terre. Et j'ai pris très tôt une conscience planétaire. Je me suis rendu compte vraiment dans mon adolescence que j'étais terrienne. Je dis toujours, je suis terrienne avant toute chose. Et ça descend après jusqu'à mes origines bourguignonnes. Mais je suis terrienne, européenne, française et bourguignonne. Et donc, cette conscience terrienne a fait que ça a développé chez moi un goût pour tout ce qui est écologie. Et tout naturellement, ce sont des expériences personnelles vécues face à des problèmes écologiques qui m'ont amené à écrire mes romans jeunesse. Donc le message, il est là, il est dans la situation évoquée par le roman, la situation dans laquelle je mets mes personnages pour qu'ils agissent en fonction de ces décors. En fait.
D'accord. Même question pour la ville.
Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, je suis un bébé un peu comme tu disais dans l'émission. J'ai commencé en 2010. J'ai commencé par des polars vraiment adultes, donc 4. Et puis là, donc ma dernière ma trilogie en fait, là, qui est en cours. Donc là, c'est vraiment orienté, moi aussi, le grand élève de collège, on va dire, donc 12, 13, 14 ans. Et je me suis, moi, par contre, fixé quelques limites parce que mes polars sont assez sanglants, quand même, assez durs. Donc j'ai écrit. J'ai surtout pas voulu prendre les ados pour des imbéciles, par contre. Donc je me suis pas imposé de règles au niveau du vocabulaire, de choses comme ça. Mais par contre, sur la violence, j'ai baissé un petit peu le niveau par rapport à mes polars. Et puis je me suis beaucoup amusé aussi au niveau des insultes à en inventer. Un peu à la capitaine ad hoc, hein, vous voyez le genre. Alors évidemment, en 2550, c'est un peu différent, mais voilà. Donc deux manières d'écrire différentes quand même, un petit peu pour moi. Pas tout à fait la même chose. Et puis au niveau des messages, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Enfin, moi, j'ai horreur de faire la leçon, surtout quand j'écris. Donc l'idée, c'est que le message passe grâce à l'histoire et pas en faisant la morale au lecteur, surtout pas. Mais comme toi, c'est des colères souvent qui font naître des envies de... Enfin, pour moi, en tout cas, souvent des colères, des injustices. Et on a envie de... utiliser une belle histoire pour en parler. Donc voilà.
Ménélas ? Oui, je suis un peu dans la même démarche par rapport au message. On n'écrit pas, je pense, on n'écrit pas du roman pour passer des messages particuliers. En revanche, comme moi, je suis dans un domaine où je privilégie l'aventure, j'ai envie que ce soit toujours de l'aventure, j'ai tendance à vouloir quand même un petit côté initiatique. Je tiens peut-être ça de mon ancien métier. Moi, j'étais pas prof, j'étais éducateur. Et donc, dans cette idée-là, c'est évident qu'on a quand même un rôle important à jouer. On s'adresse à des jeunes, on ne peut pas non plus tout faire ou raconter n'importe quoi. Mais je ne me limite pas, même en ayant visé au départ un public jeune, je m'étais dit une tranche de 12 à 15 ans, ça me semblait être un public cible. On est vite rattrapé par la réalité, puisque... Et les plus jeunes, mes lecteurs, je sais, il y en a 8 ans, si ça veut dire, ils ont déjà dedans. Puis ça dépasse après. Hein. Quand vous recevez un mail d'une dame qui dit « Moi, j'ai 76 ans, je viens de lire votre truc. » Bon, il n'y a pas vraiment, par rapport à la tranche d'âge. Mais voilà, je pense qu'effectivement, on n'a pas le droit de prendre les jeunes pour des imbéciles. Donc ce petit côté initiatique, ce n'est pas pour apporter une morale ou quelque chose, c'est pour essayer de moi, personnellement, j'essaie de les rassembler sur des thèmes dont on parle peu, des thèmes par exemple aussi sur lesquels des historiens ne sont pas tout à fait d'accord, ça a existé, pas existé, ces batailles-là. Je trouve justement, s'ils ne sont pas d'accord, ça nous ouvre une faille, nous, pour l'imaginaire, de dire, attendez, s'ils ne sont pas d'accord, on peut encore inventer une autre voie. Quoi. Et voilà, bon, c'est un peu ce fil-là que j'aime bien mettre quand même, qui reste un support initiatique à l'intérieur. Quoi.
On a beaucoup parlé d'histoire pour l'instant. Est-ce que vous pensez à vos lecteurs quand vous écrivez ? Est-ce que des romans pour ados ? Est-ce que c'est en toile de fond en permanence ?
Non, pas vraiment. Moi, je suis vraiment un peu comme tu disais, entraîné par mon histoire et mes personnages. Et non, j'ai pas vraiment le lecteur en visuel. Je m'éclate avec mes personnages et voilà. J'espère que les lecteurs vont s'éclater après aussi.
Le seul truc que j'ai cessé de faire, c'est de mettre du second degré dans mes histoires adolescentes, parce que je me suis aperçue que tout le monde ne partageait pas mon humour pourri, et que je n'étais pas forcément comprise. Certains prenaient des réflexions de mes héros à leur nue propriété et ça passait assez mal, puisque j'ai tendance à être assez cynique, donc mes personnages aussi. Et ça, je commence à apprendre à cesser de le faire. C'est pas parce que ça nuit à mon objectif principal qui est l'histoire elle-même. C'est là que je me surveille, c'est peut-être le seul endroit finalement. Et après, c'est Denis Guillot qui me surveille pour que je ne mette pas d'horribles mots de plus de 3 syllabes qui nécessitent l'usage du littré, de l'encyclopédia universalis. Et voilà, parce que de temps en temps, il y a des mots, je les aime vraiment beaucoup, comme coruscant, smaragdin, voilà. Et j'aime bien les mettre dans les textes. Et le jeu avec Denis, c'est qu'il les trouve tous et qu'il les enlève tous. Et de temps en temps, il en loupe. C'est bien. C'est bien. Et alors, là où on doit être arrivé à une espèce d'équilibre tous les deux, parce que ceux qui loupent, les gens sont contents de les trouver. Ils disent, à ce mot-là, je ne connaissais pas, il est vraiment joli. Donc voilà.
Moi, j'écris un petit peu pour moi, en fait. Quand je lisais de la science-fiction quand j'étais ado, ça n'existait pas, la science-fiction jeunesse. Lisais de la science-fiction pour adultes. Et j'avais deux catégories de lecture à mon adolescence. Alors, je lisais les romans d'amour auxquels c'était ma mère et mes deux tantes étaient abonnées à des clubs de romans d'amour. Donc on recevait 3 romans par mois à la maison et je dévorais absolument ces choses-là. Et puis, parallèlement à ça, je lisais de la science-fiction, donc beaucoup de space opera, d'aventure, etc. Je me dis toujours que je suis la petite fille d'Angélique Marquise des Anges et de Barjavel, ce qui est la stricte vérité. Je trouvais absolument déplorable que dans les romans de science-fiction, il n'y ait pas de belles histoires d'amour, et que dans les romans d'amour, il n'y ait jamais de fusée. Et donc, le jour où j'ai eu envie d'écrire un livre, en fait, je l'ai écrit aussi pour mes élèves, parce que je cherchais à faire étudier des romans de science-fiction pour mes élèves, il y en avait très peu. Il y avait Christian Grenier, Christian Léourier, mais c'était les tout débuts de la science-fiction jeunesse.
Il y avait Camus, que je découvre. Oui. J'aimais beaucoup ce
qu'il avait. Oui, oui. Et donc, j'ai eu envie d'écrire un bouquin qui s'adresserait à mes élèves. Et donc, j'ai vu mon public cible, justement, grands adolescents de collège dès le début. Et puis, je dis toujours, je suis ma première lectrice. Je relis mes manuscrits après les avoir laissés reposer un petit moment. Et si ça me plaît, je ne sais pas, je suis restée très jeune, si ça me plaît en tant que lectrice comme j'étais quand j'étais jeune, je me dis, si ça me plaît à moi, ça plaira à d'autres. Ça m'est arrivé quelquefois de relire. Je relis quand même pas mes bouquins tous les soirs, mais de relire certains de mes livres parce que je savais que j'allais faire une intervention devant une classe qui avait lu un livre que je n'avais pas lu depuis longtemps pour me remettre quand même un petit peu tout en mémoire. Et je refermais le bouquin en me disant, c'est pas mal quand même.
C'est triste, écrivain.
Voilà, c'est vrai que bon, c'est une garantie de sécurité pour moi de que mes livres me plaisent encore. Quoi. Je suis ma première lectrice. Alors donc, c'est pareil, moi je suis pareil, j'ai des lecteurs âgés aussi qui lisent mes livres et qui me disent, mais moi j'ai vraiment aimé. Et puis la phrase que j'ai adorée, on l'entend beaucoup moins maintenant, mais pendant des années, c'était les enseignants qui me disaient, mais vous êtes sûr que c'est de la science-fiction?
Ah mon Dieu.
Je n'aime pas la science-fiction et j'ai aimé votre livre.
Ouais.
Maintenant, ah, c'est oui. Fini. On l'entend vraiment beaucoup moins. Parce que justement, depuis 89, il y a des gens comme moi qui ont fait du boulot derrière et que ça y est, c'est entré maintenant au niveau scolaire. Mais ça, c'était quelque chose qui était, je me disais, oui, il y a vraiment du travail à faire au niveau de la littérature jeunesse, de l'imaginaire, là.
On a encore l'option. Ce qui m'a étonnée dans votre livre, c'est que pour un livre de jeunesse, ça soit si bien écrit.
Ah oui, oui, oui.
Ah oui. Manque d'exigence.
Merci. Chers collègues.
La dernière première chose qui m'a beaucoup plu, c'est il n'a pas vieilli le livre, virgule, lui, point d'exclamation.
Ça fait plaisir. Hein.
Ça, c'est génial. Ça, je suis absolument ravie d'avoir pris droit à ça une fois. Parce que
c'est... Oui, quelle est la question de base? Alors, parce que là, on a des vies.
C'est quand tu écris, est-ce que tu penses en permanence à ton lecteur, à l'adolescent ou l'adolescente qui va te lire?
Non, j'y pense plus. J'y avais pensé au premier, dans la mesure où, comme je dis, je m'étais choisi un lectorat cible. Je me disais, il faut que tu limites. Et je me suis interdit de le faire à l'avenir, parce que non. On écrit pour un... Est-ce que Robinson Crusoe a été écrit pour des jeunes ou pas? La question se pose, et je la repose, parce que quelqu'un comme Michel Tournier, qui un jour a écrit Les Lèmes du Pacifique, en parlant... Ce livre avait eu un succès fou. Moi, je me souviens de l'avoir lu, j'avais 13 ans. Donc, on lit Michel Tournier, pourtant, Académie française. Il a voulu en faire une version jeunesse, ou peut-être c'est l'éditeur qui lui a commandé à un moment. On est passé de vendredi au jeudi. Bon. Il a essayé de mettre à un niveau. Ce livre n'a absolument pas fonctionné à partir du moment où on avait déjà une écriture qui était tout publique. Vouloir après... Moi, j'ai peut-être la chance d'avoir un éditeur qui ne m'enlève pas de mots, par exemple, parce que même quand il en repère, bon, on me fait remarquer des fois, on me dit, tiens, tu as employé le mot archétype, tu penses qu'un gamin de 12 ans, un archétype, bon...
Le mot archétype, ça me va
quand même. Ouais, moi, je pars du principe que soit il le connaît, s'il ne connaît pas, il va peut-être aller chercher un dictionnaire. Mais il y a une troisième version, c'est que soit le contexte va lui donner une idée, ou il va, lui, à partir de son propre imaginaire, le recaler dans son histoire, et donc il va se le réapproprier. Donc je ne me fais pas de... Je ne veux plus me limiter comme ça pour un mot ou un autre. Bon, peut-être...
Ben, je ne suis pas très d'accord avec ton exemple pour les langues pacifiques, parce que je l'ai lu en quatrième, ça avait été une lecture imposée en classe,
ouais.
Mais... que j'avais pas détesté du tout, mais en revanche, je me souviens très bien de quelques scènes qui m'avaient terriblement marqué dans Les Limbes du Pacifique, hein, je parle pas de Vendredi ou La Vie Sauvage, dont j'aurais pu me passer à l'époque. Voilà, aisément. Dont j'aurais très très bien pu me passer. À part ça, j'avais lu après, sans conviction, effectivement, au départ, La vie sauvage, et ça m'avait éclaté parce que, alors bon, là pour le coup j'avais les deux, tu vois, donc ça m'avait éclaté. J'étais très très surprise de l'ampleur de ce que je n'avais pas compris dans le précédent, parce que Les Lames du Pacifique, ça fonctionne en plus sur Les Lames du Tarot pour en comprendre. Je dis pas qu'il faut lire un livre à tous ses niveaux de lecture, et Dieu sait qu'en quatrième j'étais incapable d'accéder au niveau de lecture des Lames du Pacifique. Mais je trouve un peu dommage, si tu veux, à ce moment-là, de fourrer dans les pattes aux gamins un bouquin dont ils vont manquer les deux tiers. Et donc, il y a des chances, puisqu'il y a finalement très peu de relecteurs. Des gens qui relisent, il y en a très peu, en fait. C'est dommage de leur offrir ce bouquin-là à ce moment-là, parce qu'ils vont en manquer la partie... la partie secrète, la partie intime, et elle est forte dans Les Lames du Pacifique. Et du coup, quelque part, c'est pas que les gamins ne sont pas capables d'eux, mais ils n'ont en général pas le fond culturel nécessaire pour y accéder à ce moment-là. Et c'est vraiment dommage. Les Lames, La Vie Sauvage, c'est génial, c'est à mourir de rire, enfin, de mon point de vue. Alors, j'ai jamais travaillé dessus en tant qu'auteur, en tant que professeur par ailleurs. Mais sinon, pour revenir sur les livres adultes avec quête initiatique dont tu parlais, il y en a finalement plein dans la science-fiction, adulte. Je pense à La Stratégie Ender, par exemple, qui désormais est en jeunesse, mais je l'ai lu, et Martine sûrement aussi. D'accord. Je suis désolée, je suis super fatiguée là.
On l'a pas découvert en jeunesse. Hein.
Moi, je l'ai lu dans la collection de base de départ pour adultes. Pareil, La Voix des Morts. Il y a énormément de bouquins de SF qui sont des quêtes initiatiques. Et où, comme énormément de nos romans à tous, le personnage va grandir avec l'histoire. Et en ce sens, ça en fait des livres de jeunesse tout à fait accessibles. Et c'est là, tu vois, que l'homme du Pacifique, ça ne marche pas. Parce que quelque part, pour moi, c'est pas, s'il y a un parcours initiatique, il est tellement hermétique, tellement ésotérique, que y a, tu y avais accès, mais peut-être...
Oui, je ne l'ai pas découvert. Je te dis, j'avais 13 ans, donc je pense que j'avais une lecture... Bon, effectivement, à 13 ans, peut-être j'avais raté la symbolique du tarot au début du roman. Mais je crois que c'est comme ça dans... C'est comme ça pour des tas d'autres livres. Il me semble que c'est nous qui évoluons par rapport à un livre. Donc un livre qu'on a lu et qu'on reprend 10 ans plus tard, on va de toute façon se rendre compte qu'on avait zappé certains niveaux de lecture. Enfin, c'est fréquent.
Ça c'est évident, mais il y en a qui sont plus riches que d'autres. Et là, dans ce cas précis,
si tu veux, j'aurais tendance à... Oui, je n'ai pas choisi le meilleur exemple, en tout cas. Mais c'était sur le mécanisme.
Mais j'entends bien, mais je... Il ne faudrait pas que nos petits camarades qui nous écoutent se précipitent sur les lames du Pacifique ou disent à leur professeur « Ah non, la vie sauvage, c'est caca !» Parce que c'est un livre qui est étudié pas mal en classe, en fait. En primaire, il me semble, par contre.
Tu l'as jamais vu début de collège.
Début de collège,
il me semble.
Mais la science-fiction, par exemple, c'est un genre littéraire qu'on ne peut pas mettre dans les mains de lecteurs très jeunes. Je veux dire, à 6-7 ans, c'est difficile de lire de la science-fiction quand on n'a pas encore la construction mentale de l'espace, du temps, de ces notions-là qui sont très importantes. Et moi, je déconseille souvent de faire lire de la science-fiction trop tôt, parce qu'on risque de dégoûter plus qu'autre chose un jeune lecteur qui ne va pas comprendre... Et ça lui laissera un a priori après assez négatif. Il faut avoir déjà une certaine construction mentale de l'espace et du temps pour pouvoir se projeter dans un univers d'imaginaire, en particulier pour la science-fiction, style space opéra, etc. Et les problématiques peuvent aussi être au-dessus du niveau d'âge en fait, de très jeunes lecteurs.
Il y a des choses que vous interdisez dans le roman d'ado?
Il y a une forme d'autocensure, c'est évident que... moi, j'ai jamais été capable de faire un vrai personnage de salaud, un vrai méchant, vous savez, celui-là qui vous dégoûte tellement. J'ai toujours dit, le jour où vous trouverez dans un roman de Daniel Martin-Eagle un vrai personnage abject, c'est que j'aurais vraiment changé, j'arrive pas à faire ça. Parce que c'est peut-être dans ma nature, c'est aussi une question de personnalité de l'auteur, hein. Moi je me censure pas du tout au niveau du vocabulaire, parce que quand je lisais des bouquins où il était question de technologie comme les tuyères, etc., je savais pas du tout ce que c'était qu'une tuyère. La première fois que j'ai lu un roman de science-fiction avec la tuyère, c'était la fusée décollade toute la puissance de ces tuyères. Je me suis dit, ça doit être le moteur. Et puis après, elle arrive sur une planète, elle se pose sur ses tuyères. J'ai dit, ça doit être les pieds. Et puis, troisième truc, après, ils partent en vol, la tuyère explose. J'avais bien compris, c'était le moteur. Alors, et à la fin, je regarde quand même la couverture du livre, parce que c'est quand même important, et puis je repense tout de même à Tintin, etc., et je me dis, ça pourrait bien être les deux machins, là, puisque ça crachait le feu à un moment donné dans le bouquin. Et donc, voilà, j'ai fini par me dire, ça doit être pot d'échappement. Et donc, c'est ce que je dis souvent quand on me dit, non, il faut absolument que vos jeunes lecteurs comprennent tout. Je dis, donnez-leur oui, ils vont tout comprendre. Il y a aussi cette approche-là d'un livre. Je trouve que c'est merveilleux de vivre une aventure, mais c'est aussi merveilleux d'avoir des mots, des nouvelles notions, du vocabulaire, enfin bon... Et ça, c'est... Je me souviens d'une année où j'ai lu Malléville de Robert Merle pendant l'été. Et j'arrive devant mes troisièmes, je leur dis, on va lire Malléville. Un gamin qui revient le lendemain, il me dit, dites donc, on est allé à la librairie avec ma mère, ça fait 600 pages, votre truc, là. Alors, je dis, oui, ah oui, c'est vrai, c'est que j'ai oublié que c'était si gros, quand même. Je dis, vous allez voir, c'est génial. Je dis, vous allez voir, c'est génial. Les élèves se sont plongés dedans parce qu'ils sentaient qu'il y avait que le prof avait dit, que je leur ai dit, je l'ai lu cet été, je ne l'avais jamais lu, et ça m'a plu. Et il y a ça, enfin dans l'enseignement aussi, il y a ça, cette transmission de la passion. Et je pense que ça se sent à travers nos livres jeunesse. Si, quand nos jeunes lecteurs ouvrent nos bouquins, ils sentent ça, ils sentent qu'on a pris plaisir à écrire notre histoire, à manipuler nos personnages, à les mettre dans des situations d'effroi et de sentiments. Hein,
je vais lire quand même. Hein,
mais c'est ça, je pense que le lecteur, il y a une adhésion, il y a une identification, et je pense que ça fonctionne comme ça beaucoup. Mais tous les romans, hein, pas seulement les romans jeunesse, enfin c'est pas...
Mais c'est vrai que puisqu'on parle d'effroi, puisqu'on parle de quête initiative et que la peur en fait partie, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour faire peur aux ados dans les romans?
Écoute, si tu la trouves, tu me dis. Je sais pas. Tu veux que quelqu'un
y... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas il y a des situations où on se remémore ado ou des choses particulières? Quand on fait des polars sanglants, hein, et que du coup après on parle à de jeunes lecteurs, les moments un peu clés de suspense, de tension.
Mais en fait, déjà il y a vraiment plusieurs niveaux même dans le polar. J'étais surpris quand j'ai débarqué dans le polar de voir toute la variété qui existe. Il y a des trucs moi-même qui me laissent un peu parce que c'est tellement costaud que voilà. Pourtant je fais pas des trucs de la collection Harlequin, mais mais voilà, donc il y a vraiment différents niveaux, et je pense qu'en fonction des gens, c'est très variable. Moi, j'ai même des gens qui m'ont dit, des collègues même, qui m'ont dit, bah, j'ai reposé ton livre, j'ai pas pu, c'était trop dur. Alors que finalement, pour moi, il était pas dur du tout. Et ça dépend vraiment ce qu'on a l'habitude de lire et comment on le ressent. Mais pour les films, c'est pareil. Vous allez avoir des gens qui vont être terrorisés devant un film, quand d'autres vont être morts de rire. Parce qu'ils prennent vraiment du recul sur ce qu'ils voient et sur la scène un peu gore qui peut arriver. Donc je crois qu'il y a, je suis pas sûr qu'il y ait de recette non plus. Moi, ce que je sais, c'est que un des premiers romans qui m'a transporté, c'était un roman de Stephen King, il y a très longtemps, que j'avais pas forcément le droit de lire, mais enfin c'est ça qui était marrant, et j'ai eu peur, mais c'est de la peur qui me laisse un super souvenir. Donc l'idée, c'est d'essayer de refaire ressentir ça à des lecteurs après, pourquoi pas. Ouais, donc quand on arrive,
c'est un plaisir. Ouais.
Donc, mais encore une fois, comme tu disais, moi j'écris aussi en étant mon premier lecteur, j'écris des trucs que j'aimerais lire. Si je me fais un peu peur, je pense que je peux peut-être réussir à faire un peu peur aux autres. Et j'ai une autre anecdote qui est assez marrante à ce sujet. J'avais fait une fois une rencontre comme ça où on avait des lectures de textes. Et donc on était trois, il y avait deux hommes et une jeune femme, une amie à moi, que je ne connaissais pas encore bien. Et elle est très douce comme femme, très, très gentille, très calme. Et donc, nos deux passages de livres ont été lus. Voilà, c'est bien passé, c'était sympa de s'entendre. Et puis elle, qu'on imaginait toute douce et tout, le lecteur s'est mis à lire. Donc c'était un professionnel, donc un comédien. Et là, il y a eu un moment de blanc dans la salle, parce que son truc, c'était terrible. Et elle a pleuré en entendant ce qu'elle avait écrit. Parce que ça, en l'écrivant, c'était certainement différent. Mais en l'entendant... comme ça, dans une salle, elle en a pleuré. Elle s'est dit, j'ai écrit ça, mais c'est horrible. Et c'était assez amusant comme situation. Donc, c'est vrai que je suis pas sûr qu'il y ait de recette, mais elle s'est fait peur à elle-même. En tout cas.
Je me souviens d'une lecture au bar des Imaginales, des histoires à lire quand les enfants sont couchés, où on avait repris un passage de Plagueurs, qui, je rappelle, était au départ pensé comme un roman plutôt pour adolescents. Et la scène qu'ils ont choisie était une scène qui était déjà dans le... Et je me suis rendu compte en l'entendant que j'avais fait un tableau de Jérôme Bosch, que c'était assez épouvantable. Il y avait Elisabeth von Arbourg qui a failli venir. Elle était toute blanche, puis elle a fait comme ça. Et du coup, je ne sais pas du tout comment j'ai géré cette scène. Je la vois très très bien dans ma tête. Elle ne m'effraie pas du tout, pas une seconde. Elle fait totalement partie de moi. On m'a encore dit que c'était assez malsain, il y a 20 minutes, là.
Les gens fusionnent.
Oui.
Dans Plagueurs, les gens fusionnent.
Voilà. Et puis, ils défusionnent aussi.
Puis, ils défusionnent.
Et c'est le passage de la fusion qui avait rendu... mais je ne l'ai... Au moment où je l'ai écrit, je ne l'ai jamais senti épouvantable. Mais j'ai plein d'échos de lecteurs qui m'ont dit, mais c'est le passage où tu donnes un coup de poing dans l'estomac des gens. Ah ouais. Donc, bah, si vous me le dites, j'aurais plus cru, moi, que c'était la mort d'un des personnages, je ne vous dis pas lequel. Hein, bah, spoiler alerte. Mais voilà, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est, j'écris pas mes histoires en fonction du suspense ou de la. Mais plutôt en fonction de l'évolution psychologique de mes héros. Et ce que j'aime, c'est la tension de cette évolution. Du coup, les frissons et les frissons, ça arrive. Mais le sentiment est très important, mais je ne le mets pas en place consciemment.
Oui, moi non plus. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode possible. En tant qu'auteur, on est forcément. On régurgite un moment tout ce qu'on a avalé. Donc, bien sûr, tu as parlé de Stephen King. Si on parle du frisson dans le côté trouille, bon, oui, ça nous a tous marqués. Ça nous a marqués, mais comme nous avait marqué, enfin, moi, ma génération, mais peut-être Daniel, c'est un peu pareil. Comme, moi, quand je lisais Edgar Poe, le premier qui m'est fichu la trouille, c'est Edgar Poe. Dire des nouvelles d'Edgar Poe.
Lovecraft, c'était bien aussi.
Lovecraft, c'est pas mal, dans le genre. Mais nous, on l'a eu plus tard, les traductions en France. Donc je crois pas trop là, à une technique qu'on pourrait utiliser comme ça. Mais c'est vrai que pour tout jeune un peu, il y a ce qu'on écrit et qui parfois nous échappe, où on n'a pas voulu forcément faire frissonner sur un truc. Par exemple, moi, dans mes Lunes de Pandore, je crois que c'est à la fin du tome 2, j'ai eu pas le héros, mais l'héroïne. Elle appartient à une lignée magique qui a subi une malédiction. Il se passe quelque chose sur la planète qui fait qu'elle se transforme en femme serpent. Et moi, c'était une transformation. Je n'avais pas l'intention de faire peur comme ça avec ça. Mais après, j'ai vu quand on fait des interventions dans les classes, tout le monde, surtout les filles me disent, elle ne va pas rester comme ça quand même. On ne peut pas rester. Une trouille que le personnage se transforme vraiment en. Il fallait absolument que je la sauve, ce que j'ai fait dans le tome 3, parce que sinon ça finissait mal. Donc on est obligé de répondre pour le coup, à la demande.
Mais moi, je suis assez déceptive avec mes lecteurs quand ils font des demandes. Je dis non, ça ne va pas se passer. Vous ne me dicterez pas l'histoire, les enfants. C'est parce que je me réforme, tu sais.
Oui, non, mais les jeunes sont bons pour faire. Non, par exemple, j'ai un lémurien qui meurt. À un moment, il est pris dans les branches d'un arbre. Bon, alors, tout le monde m'a dit, pourquoi il est mort ce lémurien ? Il n'avait rien fait. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans le même roman, j'ai dit, oui, mais vous n'avez pas pleuré. À un moment, il y a une grand-mère qui meurt et, d'une manière plutôt injuste. Donc, je dis, bah, là, pour un être humain, vous n'avez rien dit. Un petit lémurien, là, ça vous.
Ça me rappelle, dans la Tour Infernale, il y a un Yorkshire. Je vous raconte La Tour Infernale, c'est un film où il y a plein de gens dans une tour aux États-Unis et il y a un incendie. Et finalement, tous les gens qui regardent ce film, leur focalisation c'est « pas le chien, pas le chien
!» Moi j'ai eu une expérience pareille avec Les Abîmes d'Outre-mer. J'étais devant un groupe d'élèves et puis j'expliquais qu'en général je tue un personnage par roman.
C'est le quota.
Voilà. Alors on me demande comment choisir. Alors j'ai dit, je fais la liste des personnages importants, la liste des personnages moins importants. Il y en a un, je ne sais jamais où le mettre, c'est celui-là que je tue. S'il n'est pas dans la liste des personnages importants, il ne va donc pas manquer obligatoirement pour la suite de l'histoire. Et puis s'il pourrait quand même être dans la liste des personnages importants, c'est que le lecteur a eu le temps déjà de se familiariser avec lui, et puis donc il le regrettera un petit peu. Et donc un de mes lecteurs dans la salle me dit « C'est faux, dans Les Abîmes d'Outre-mer, il n'y a pas de mort. » Alors je dis « Ah bon ?» Alors il me dit « Ah oui, je dis, j'ai lu tous vos livres, effectivement, il y a un mort par roman, je peux attester, mais dans Les Abîmes d'Outre-mer, il n'y a pas de mort. » Je dis « Ah bon ?» Mais bien sûr de toi. Il me dit, ah ça, alors là, je connais Martin Eagle sur le bout du doigt. Je lui dis, t'as pas de chance, il y en a 950 à la première page. Alors, ça commence par effectivement la catastrophe d'un vaisseau spatial et il est dit qu'il y a presque 1000 victimes. Et il me dit, ah mince, ceux-là, je les avais pas vus. Alors, donc, je réponds, et bien, j'ai réussi mon coup, puisque je voulais montrer justement dans ce roman les dérives des médias qui focalisent sur certaines choses au lieu d'autres choses. Et je dis donc, là, effectivement, je suis vraiment ravie de ta réponse, parce que ça prouve bien que, effectivement, 900 morts, on ne les voit pas. Et puis, le Charat que j'ai tué dans Les Oubliés de Vulcain, il a fait pleurer des générations de lecteurs. Enfin, donc, là, mais moi, je l'ai ramené, parce que c'est de la science-fiction, je l'ai cloné. Donc, c'est ce qu'il y a de bien, parce que j'étais triste aussi, moi. Là, du coup, je me disais, ben, j'aurais peut-être quand même pas dû l'éliminer, mais bon sang, j'ai le clonage. Et donc voilà, c'est vrai que les personnages, enfin, bon, il y a quelque chose dans les froids qui est difficile à quantifier d'un lecteur à l'autre. Hein. On ne sait pas exactement. Chacun lit avec son vécu. Hein. Il y a 50% de l'auteur, 50% du lecteur. Hein. Et donc, on ne réagit pas, comme tu disais, chacun devant les mêmes choses.
Et puis, je pense que c'est vrai, pas seulement dans les froids, mais dans les sentiments en général. Ouais. Enfin, moi, j'ai le souvenir, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc mon premier polar, Le Mot Papillon, sans trop en raconter, bon, c'est un polar très rythmé, avec beaucoup de rebondissements, il se passe plein de choses, on est surpris très souvent, et il y a une histoire d'amour qui est présente, mais qui n'est pas vraiment le cœur du roman. Et à la fin donc, de tous les rebondissements, de tout ce qui se passe, les gens viennent souvent me voir et me disent, et finalement, il revient pas voir sa femme à la fin parce que c'est dur de la quitter. Et c'est vraiment quelque chose presque d'anecdotique dans le roman, mais très souvent, quand même, c'est dur à la fin. Là, c'était vraiment. Voilà. Donc le sentiment, je crois que quel que soit le type de roman, que ce soit du policier, du fantastique, de la science-fiction, finalement, ce qu'on retrouve, c'est l'humain. C'est les relations humaines, que ce soit une histoire d'amour, une histoire de frère et sœur, une histoire. Mais c'est ça qui reste finalement d'un roman souvent.
Et la vieille. D'accord, mais tu me parles de violence psychologique.
Il y a quand même un grand point commun entre le polar et la science-fiction par rapport à d'autres genres. C'est que les deux mettent en scène vraiment, pas tellement finalement, un humain particulier. Mais l'humanité en général. Le polar est peut-être un des premiers à l'avoir vraiment pris en charge quelque part. Il y a un côté tragédie grecque tout à fait connu dans le polar. Et la science-fiction, quand elle s'embarque dans la sociologie, dans l'écologie, elle ne fait rien d'autre. C'est vraiment deux genres frères et c'est pas très étonnant qu'ils se recouvrent assez souvent. Mais c'est pour ça peut-être qu'au départ, l'histoire d'amour n'était pas centrale dans certains romans de science-fiction, où on la trouvait carrément pas, sauf à titre de trace, la gentille fille du professeur qui épousait le héros à la fin. Mais vraiment, c'était pour faire joli, parce que c'est comme ça que les histoires fonctionnent à la fin. Le prince épouse la princesse, même dans les romans de science-fiction. Mais du coup, c'était une dimension qui n'intéressait pas forcément le lecteur à ce moment-là, dans les années 30-40, je pense. Après, on s'est mis à penser que peut-être les femmes étaient des sujets, et du coup, il faut avoir des relations avec elles, c'est bête. Et souvent, les hommes ont des relations amoureuses avec les femmes. Ça arrive. L'humanité est d'ailleurs la preuve que ça fonctionne à peu près. Donc du coup, voilà. Et le polar aussi, il n'avait pas forcément d'histoire d'amour dedans. La vénéneuse blonde. Qui arrive et pour laquelle le détective va vivre toute l'aventure. Mais en gros, on retrouve ça c'est dans les deux genres.
Je voudrais qu'on termine juste sur une question, puis après on fera des questions au public. Toujours cette question sur les limites. Alors, je vais associer deux choses qu'on peut pas forcément avoir. C'est jusqu'où on va dans la violence psychologique, dans les romans pour ados. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise pas? Et pourquoi? Et puis, puisqu'on parle de frissons, je voudrais parler de frissons amoureux et de sexualité. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise pas? Ou comment on fait? Est-ce qu'on on fait des ellipses? Ou pas? Qui veut attaquer sur un des deux? Allez hop, il y aura 10 minutes, on y va.
Pour revenir aux abus d'outre-mer, moi, c'est un rapport très particulier du pilote avec son vaisseau, puisque c'est un vaisseau vivant, et le pilote ne peut commander à la bête, entre guillemets, enfin bon, que s'il entre nu à l'intérieur de ce que j'ai appelé le cerveuil, c'est-à-dire à la fois cerveau et œil du vaisseau animal. Et pour moi, c'était impensable que, cette fusion, on parlait de fusion tout à l'heure, cette fusion se fasse autrement qu'avec le pilote ou la pilote, donc, que j'appelle les perles, enquistées à l'intérieur du cerveau et du vaisseau, autrement que nu. Et quand j'ai écrit la scène, moi, ça me paraissait évident que le pilote était nu à l'intérieur du cerveau et pénétrait dans le cerveau nu et puis pilote son vaisseau comme ça. Et c'est après coup que je me suis dit, oh là, c'est un roman pour ado, ça ne va pas passer auprès de l'éditeur. Et quand j'ai soumis ça à Denis Guillot, puisque j'ai travaillé avec le même directeur de collection qu'évoquait tout à l'heure Jeanne, j'attendais, disant, passera, passera pas. C'était pour les éditions Mango, la collection Autre Monde. Il me dit, alors il m'en renvoie évidemment le manuscrit avec une tonne de choses à corriger, mais pas sur cette scène-là. Donc je me dis, c'est pas possible, il n'a pas lu la page ou quoi. Donc je lui téléphone et je lui dis, mais cette scène-là, ça te paraît... Ah, il me dit oui, il me dit c'est très beau, c'est poétique, ça passait très bien. Donc c'est resté dans la version française et le roman a été traduit en turc. La trilogie est traduite en turc. Et j'ai reçu il y a à peu près deux mois la version, le troisième tome en turc. Et je ne savais pas si en Turquie ils avaient maintenu cette scène-là ou pas. Donc j'ai fait une photo de la page et puis je me suis adressée à un ami sur Facebook qui comprend, qui vit en Turquie et qui comprend le turc, et qui m'a dit, écoute, je ne peux pas te le traduire d'une façon littérale, mais oui, elle est nue, on la voit, oui. il est question de sa nudité, etc. Et j'ai employé l'expression superbe nudité, il m'a dit, il y a effectivement un adjectif qui fait une allusion à ça, et j'avoue que je suis extrêmement fière d'avoir des romans de science-fiction. Déjà, ce n'est pas évident en Turquie, mais en plus avec une scène comme ça et qui soit lue par des adolescents en Turquie. Parce que on peut pas, enfin, ça m'était pas venu à l'idée une seule seconde de me censurer, mais c'est après coup. Mais j'ai pas voulu revenir en arrière sur ce que je venais d'écrire en me disant, après tout, je l'ai ressenti comme ça, j'ai eu envie de l'écrire comme ça, je le laisse comme ça. Si quelqu'un doit le censurer, ça sera l'éditeur. Mais vous voyez, ça n'a été censuré ni en France ni en Turquie. Donc, comme quoi, on peut très bien avoir des scènes qui pourraient être interprétées comme étant tendancieuses ou exhibitionnistes ou je ne sais pas, et puis que finalement, ça passe dans le corps du texte. Quoi. Ça, quand ça va dans l'histoire, ça passe bien.
Peut-être que le directeur de collection n'a pas lu Freud. Parce que Denis, parfois...
Dans le roman que j'ai fait avec Alain Grousset, sans interdit, c'est l'éditeur qui nous a demandé de rouvrir la porte de la chambre à coucher. Parce que l'éditrice nous a dit, oh, vous, on ne les voit pas là, vous avez fermé la porte de la chambre à coucher, c'est dommage. Et je lui ai dit, on réfléchit là, 5 minutes. Bon d'accord, il n'y a pas écrit vraiment jeunesse, Flammarion c'était juste, c'était Flammarion jeunesse, mais c'était pas marqué jeunesse sur Sens interdit. J'ai dit, vous voulez une scène un peu plus... Oui, 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 oh, les jeunes lecteurs maintenant sont avertis. Donc on l'a rajouté, la scène. Ceci dit, si Alain Grousset était là, je le dirais devant lui aussi, il n'a pas voulu l'écrire. C'est moi qui... Il m'a renvoyé, il m'a dit, ça c'est toi, hein, toute la partie sentiments, etc. C'est pour toi, donc c'est moi qui l'ai écrit. J'assume. Mais non, il n'y a pas de censure. Je pense qu'on sent intrinsèquement ce qu'on peut écrire ou ce qu'on ne peut pas écrire. Enfin, je ne sais pas.
Oui, ouais, non, je suis d'accord. Bon, on reste dans la suggestion, dans l'ellipse,
oui,
comme
oui.
Tu disais. Ouais.
Il y a énormément de romans adultes.
Mais c'est bien
qui
suffisant.
Sont dans la suggestion
oui.
Aussi. Hein.
Cela étant, de mon côté, je ne censure pas sur la scène de cul en vrai, parce que j'ai énormément de mal à l'écrire. J'en ai écrit deux, que tu as édité dans le même livre. Ça, elles m'ont coûté des quarts d'heure de suer, parce que. Alors, pourquoi elles y sont alors qu'elles m'ont coûté? Parce que ça va avec le genre que j'ai choisi et que je prenais les codes les uns après les autres et que je leur collais des claques. Donc il fallait que je les écrive ces deux scènes-là, mais naturellement j'ai écrit très peu de scènes de cul. En revanche, j'ai parlé énormément de sexualité. J'en parle quasiment à chacun de mes, dans chacun de mes livres de façon très claire. Sans l'ombre d'une gêne, mais je considère qu'on doit sortir quelque part de sa chambre tout embrassée, comme disait ma grand-mère, et qu'une fois qu'on a compris la mécanique de la chose, ma foi, c'est pour moi, je n'arrive pas à la rendre. Voilà, ça ne m'intéresse pas de la rendre. Ce qui m'intéresse, c'est la façon de la gérer intellectuellement, affectivement, etc. Ce qui se passe après sous les draps, une fois qu'on a géré tout le reste, ça concerne les personnages après tout. Et, ouais, get along. Mais c'est pas un truc que je censure directement, puisque, enfin, pas plus en jeunesse qu'en adulte, puisque voilà, ça m'est pas du tout naturel en fait.
Il est 18h. Est-ce que vous avez une question ou deux?
Une question.
Oh, une. une demi.
Une et demi.
Deux et demi dans la salle.
Écoutez, on va pas. On va remercier nos auteurs. Vous pouvez les retrouver tout de suite en dédicace. Et merci à vous d'être restés.
On est libre aussi pour les apporter.
Voilà, pour si vous voulez en savoir plus sur le sexe non explicite. Et sur la merci à vous, merci à tous.